Un journal de la rédaction présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le procès de Nicolas Sarkozy attendra quelques jours. L'audience a été suspendue peu de temps après l'ouverture. Le tribunal a ordonné l'expertise médicale de l'un des co-accusés, l'ancien magistrat Gilbert Azibert. Nicolas Sarkozy est poursuivi pour corruption et trafic d'influence. La mosquée de Pantin réclame sa réouverture devant le Conseil d'État. La page Facebook du lieu de culte avait relayé un message de haine et de menace à l'encontre de Samuel Paty. La mosquée de Pantin attire chaque semaine environ 1500 fidèles. Les écologistes doivent clarifier leur rapport avec la République. La petite phrase d'Anne Hidalgo ne passe pas chez les écologistes parisiens qui appartiennent pourtant à la majorité municipale. L'analyse de Pierre Neveu dans cette édition. Il n'y a pas eu de rencontre entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le prince héritier saoudien ce week-end. C'est la version officielle de l'Arabie Saoudite qui ne convainc pas les observateurs. Nous verrons cela avec Aurélien Colli à Beyrouth. Enfin, un francophile pressenti pour diriger la diplomatie américaine. Anthony Blinken, proche d'Obama, pourrait être nommé dès demain secrétaire d'État par Joe Biden. À peine entamé, déjà suspendu, le procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des écoutes s'est interrompu aujourd'hui. Il ne reprendra que jeudi. Le temps nécessaire à l'expertise médicale de l'un des co-prévenus, l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, qui souffre de problèmes cardiaques. L'ancien président doit être jugé pour corruption et trafic d'influence. Il est soupçonné d'avoir promis à Gilbert Azibert un poste à Monaco en échange d'informations sur une procédure le concernant. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
En direct du palais de justice de Paris, Anne, Nicolas Sarkozy rejette en bloc ces accusations. Il était présent à l'ouverture de son procès.
Oui, l'ancien président est arrivé un peu avant 13h30, costume sombre, cravate bleue et masque chirurgical sur le nez. Pas de déclaration devant les caméras, mais dans la salle d'audience, Nicolas Sarkozy est tout à son aise. Il salue les procureurs du parquet national financier, les dessinateurs de presse. Il discute avec les avocats venus en nombre soutenir Thierry Herzog, à qui il fait un salut point contre point, signe d'amitié avec son ex-conseil. C'est d'ailleurs lui, Thierry Herzog, 65 ans, cheveux gris, qui s'avance en premier pour décliner son identité à la barre. Deux minutes plus tard, il cède la place à l'ex-chef d'État. Alors que la présidente prononce son nom complet, Sarkozy de Najib Oska, précisant qu'il s'agit d'une procédure pour le casier judiciaire, Nicolas Sarkozy réagit du tac au tac. Sarkozy, c'est suffisant pour l'instant, je n'ai pas eu besoin de l'utiliser, sous-entendu son casier judiciaire. Le troisième prévenu, le haut magistrat en retraite, Gilbert Azibert, vous l'avez dit, est absent. Son avocat, Dominique Allegrini, rappelle qu'en garde à vue, en 2014, il avait fallu ramener un respirateur à son client qui avait déjà des problèmes de santé. Il ajoute que Gilbert Azibert souhaite comparaître. Les procureurs du PNF semblent conciliants. Ils soumettent l'idée d'organiser une visioconférence autorisée par une circulaire du ministère de la Justice. Mais comme ce matin, au procès des attentats de janvier 2015, tous les avocats s'y opposent. Une question délicate qui devrait donc reprendre jeudi, date limite fixée par le tribunal pour expertiser l'état de santé de Gilbert Azibert.
Merci Anne Fauquemberg avec Arthur Dumont pour les moyens techniques. Et dans cette journée à rebondissement, on a appris que le vrai Paul Bismuth se portait partie civile dans ce procès. Paul Bismuth, du nom de la ligne secrète sur laquelle Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog discutaient dans cette affaire dite des écoutes. Également suspendu, le procès des attentats de janvier 2015. Le principal accusé, Ali Riza Polat, souffre des symptômes de la Covid-19 depuis 3 semaines. La cour d'assises spéciale avait envisagé de reprendre les débats aujourd'hui en recourant à la visioconférence pour entendre le franco-turc. Refus des avocats de la défense, mais aussi des parties civiles. Et devant ce front uni, la cour a finalement décidé de prolonger d'une semaine la suspension du procès. Écoutez la satisfaction de maître Christian Saint-Palais, l'un des avocats de la défense.
Nous fréquentons les uns et les autres les assises depuis des dizaines d'années. Et depuis des dizaines d'années, des accusés peuvent être malades passagèrement. Alors nous avons appris, avec les textes de loi qui existent, à gérer ces situations. Nous suspendons quelque temps, comme c'est le cas ici, surveillons l'évolution de l'état de santé et nous revenons quand l'accusé est en pleine santé pour se défendre. C'est ça l'enjeu. Se défendre et être capable de suivre son procès dans des conditions dignes. Je vois bien l'impatience des uns et des autres. Vous savez, nous avons tous même des problèmes qui vont vous paraître très médiocres, d'agenda à régler les uns et les autres. Et puis, il y a dans le box une tension qui naît légitimement. Il ne faut pas oublier que la plupart d'entre eux sont soumis à un régime d'incarcération très particulier, d'isolement, et donc plus cette situation dure, plus elle est difficile à vivre. Les partis civils attendent tout à fait légitimement, avec impatience maintenant, une décision. Nous en sommes tous là. Mais la Cour doit se départir de cette impatience. La Cour va faire du droit. Et lundi, nous l'inviterons encore une fois à faire du droit. Si M. Pollat est là, il n'y aura aucune difficulté. S'il n'est pas là, eh bien nous redébattrons sur l'applicabilité de cette ordonnance ou pas. Je maintiens que cette ordonnance n'est pas applicable à notre situation.
Entre-temps, il y aura eu une décision du Conseil d'État.
Attention, nous n'aurons pas le temps d'ici la semaine prochaine d'avoir une décision sur la validité. Mais nous aurons une décision d'urgence sur la suspension possible des dispositions. Quand bien même ce ne serait pas le cas, nous verrons bien, le problème reste entier quand même sur l'applicabilité de cette ordonnance dans notre affaire.
Maître Christian Saint-Palais répondait à Florence Turme et c'est demain après-midi que le Conseil d'État examinera le recours déposé notamment par l'Association des avocats pénalistes. Le Conseil d'État décidément très sollicité ces jours-ci, la plus haute instance administrative examinait aujourd'hui le recours de la mosquée de Pantin. Le lieu de culte est fermé pour 6 mois, le gouvernement lui reproche d'avoir relayé sur sa page Facebook la vidéo du parent d'élève qui avait jeté en pâture Samuel Paty sur les réseaux sociaux. Cécilia Arbona, bonsoir.
Bonsoir.
La mosquée de Pantin exige sa réouverture au nom des 1500 fidèles qui la fréquentent régulièrement.
Et ce matin, il fallait donner des gages de bonne conduite. C'était la mission de Mohamed Henich, président de la Fédération musulmane de Pantin, responsable de la mosquée de la ville. Il a d'abord expliqué qu'il connaissait mal la vie privée de l'imam Ibrahim Doucouré, dont il a sobrement annoncé le départ. Il s'est retiré et on a trouvé un remplaçant, sauf que le mot « éviction » n'a pas été prononcé. Pascale Léglise, la représentante du ministère de l'Intérieur à l'audience, a rappelé que le prédicateur fondamentaliste formé au Yémen était clairement, je cite, « impliqué dans la mouvance islamiste radicale d'Île-de-France ». Et puis c'est un polygame, a-t-elle poursuivi. Il diffuse des fatwas salafistes sur Internet. Ses enfants fréquentent une école clandestine, sans parler des radicalisés qui venaient l'écouter. En face, Mohamed Henich a joué le surpris. « Nous avons des fidèles modérés », a-t-il répondu. Mais il s'est engagé à installer un système de vidéoprotection à l'entrée du lieu de culte pour détecter d'éventuelles dérives. Pour son avocat, maître William Bourdon, maintenir la mosquée de Pantin fermée serait mal perçu. Perçu comme
quelque chose d'anxiogène, d'inquiétant pour des dizaines, voire plus des centaines de milliers de musulmans de ce pays. Dans les rêves du ministère de l'Intérieur, on voudrait que le Conseil d'État soit l'allié d'une mise sous tutelle des mosquées, parce qu'on est dans une logique d'intransigeance absolue, si vous me permettez ce néologisme, d'impitoyabilité, où de toute façon, rien ne peut suffire à satisfaire le ministère de l'Intérieur.
William Bourdon, le Conseil d'État rendra sa décision mercredi matin.
Cécilia Arbona, merci. Le Conseil d'État a aussi examiné aujourd'hui la requête en référé de Baraka City. L'ONG islamiste conteste sa dissolution, prononcée en Conseil des ministres 12 jours après la décapitation de Samuel Paty. Son président Idriss Siamedi dénonce, je cite, une dissolution politique montée par un gouvernement qui refuserait tout dialogue. L'assassinat de Samuel Paty est aussi à l'origine de tensions entre la maire de Paris, Anne Hidalgo, et ses alliés écologistes. La semaine dernière, le groupe ELV au Conseil de Paris avait certes voté un vœu de la municipalité pour donner le nom de Samuel Paty à un lieu de la capitale, mais les écologistes avaient déploré le caractère précipité de ce vœu. Des réticences choquantes pour Anne Hidalgo, qui a estimé ce week-end que ELV manquait de clarté dans son rapport avec la République. Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Socialistes et écologistes avaient uni leurs forces pour garder la mairie de Paris sous la bannière Paris en commun. Mais depuis l'élection, Pierre, cette coalition se fissure.
Et il faut remonter à la fin du mois de juillet pour comprendre les origines de la fracture qui divise aujourd'hui la majorité municipale. Deux élus écologistes, Alice Coffin et Raphaël Rémy-Leleu, ont manifesté sous les fenêtres de la maire pour exiger le départ de Christophe Girard, l'emblématique adjoint à la culture, alors mis en cause pour ses liens avec l'écrivain pédophile Gabriel Matzneff. Manifestation qui avait été précédée d'un conseil municipal houleux. Cette attaque frontale, Anne Hidalgo ne l'a pas digérée. D'autant que se sont ajoutées des tensions autour du projet de rénovation de la gare du Nord et de la création d'une police municipale. Le retour de bâton, c'est donc cette petite phrase d'Anne Hidalgo, comme quoi ses alliés écologistes à la mairie auraient un problème de rapport à la République. Des propos inacceptables pour David Béliard, ancien candidat écolo à la mairie de Paris, devenu adjoint au transport, mais aussi pour le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, qui demande des excuses. On n'en est pas là, dit-on ce soir dans l'entourage d'Anne Hidalgo. Il faut se dire les choses franchement, mais on ne remettra pas en cause le mandat. Cette explication de texte, elle va avoir lieu dans les prochaines minutes entre la maire et la présidente du groupe écologiste au Conseil de Paris. Mais pour expliquer ce bras de fer qui va bien au-delà des chapelles parisiennes, il faut aussi tenir compte du calendrier électoral et des ambitions politiques des uns et des autres, les régionales pour Julien Bayou et peut-être la présidentielle pour Anne Hidalgo.
Pierre Neveu, merci. Conséquence de la crise sanitaire, Danone a annoncé ce matin un plan de 2000 suppressions d'emplois, dont 4 à 500 en France. Il s'agit essentiellement de postes de cadres et de directeurs. Danone se lance dans une réorganisation globale qui touche l'ensemble des sièges du groupe dans le monde. Anne-Laure Jumet, bonsoir.
Bonsoir.
Ce plan peut trancher avec l'image que souhaite se donner Danone, une entreprise à mission positionnée sur le terrain de la responsabilité sociale et environnementale. Mais son PDG le reconnaît, alors il faut prendre des mesures pour restaurer la rentabilité du groupe.
Oui, car explique Emmanuel Faber, le cours de bourse de Danone a chuté de 30% depuis le début de la crise du coronavirus, soit 15 milliards d'euros qui se sont envolés. Il faut dire que le groupe a été, vous le disiez, impacté par la crise économique née de la crise sanitaire. C'est le cas notamment des ventes d'eau en bouteille qui trouvent un débouché important dans les bars et restaurants. Les semaines de fermeture pèsent donc sur le chiffre d'affaires. Danone détient, rappelons-le, les marques Evian et Volvic. Et le groupe reconnaît en plus qu'il est plutôt moins vaillant que ses principaux concurrents. Alors pour restaurer la confiance des investisseurs, Danone s'impose une cure d'austérité pour dégager 1 milliard d'euros d'économies d'ici à 2023. Des économies auxquelles ces suppressions de postes participeront, mais pas seulement. Il y a aussi la volonté de davantage robotiser les usines et de réduire le portefeuille de marques. Une stratégie de reconquête des actionnaires que ne dément pas le PDG de Danone. Il faut, dit-il, que nous soyons en mesure de restaurer la valeur qu'ils ont aujourd'hui perdue et cela prendra du temps, reconnaît-il. Tout en assurant que les investissements dans le recyclage des plastiques ou pour une agriculture plus responsable ont vocation à se poursuivre. Les syndicats, eux, dénoncent ce plan de réorganisation. Danone a finalement cédé à la pression financière des marchés, regrette la CFE-CGC. Pour la CGT, le groupe Danone s'est lancé dans une fuite en avant, une course à la rentabilité avec Coca et Nestlé qu'il n'arrivera, dit-il, jamais à suivre.
Anne-Laure Jumet, merci. Les petits commerces sont-ils des biens publics? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités dans le temps du débat, juste après ce journal. Le sujet est ultra sensible. Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé aujourd'hui un début de réforme de l'éducation prioritaire. La secrétaire d'État chargée du dossier, Nathalie Elimas, annonce le lancement d'une expérimentation à partir de la rentrée 2021 dans 3 académies, Lille, Nantes et Marseille. Et cela pour corriger les imperfections de la carte actuelle des établissements situés en REP et REP+. Le ministère espère ainsi mieux cibler les besoins en adaptant ses aides notamment dans les périphéries ou bien en zone rurale. Une réforme qui a surtout des visées économiques, c'est en tout cas l'avis de Jean-Yves Rochex. Il est professeur en sciences de l'éducation et spécialiste des ZEP à l'université Paris 8 de Saint-Denis.
On nous dit que les territoires ruraux ont des besoins, on nous parle de diversité, mais jamais on analyse ce que c'est que la diversité de ces territoires. Or, qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul, et n'est pas une politique de démocratisation, mais une politique de gestion budgétaire, et on voit bien ce qui se profile par ailleurs, c'est que avec des contrats directs entre les rectorats et les établissements, c'est une politique de pilotage par les résultats, comme il existe dans les pays anglo-saxons, mais plus du tout une politique de démocratisation pilotée au niveau national avec des critères nationaux. Et toute l'histoire de l'éducation prioritaire montre que quand la priorité au niveau du ministère, au niveau national, s'estompe, dans les régions, dans les rectorats, cette politique d'éducation prioritaire s'estompe encore plus, disparaît au profit d'autres urgences, d'autres priorités. Et donc c'est ça qui est à craindre. On a manifestement une réorientation du crédit budgétaire de la lutte contre les inégalités sociales en milieu urbain vers la diversité des territoires, dont on peut penser d'ailleurs, si on en croit par les déclarations de l'enseignement catholique, qu'une des arrière-pensées ou qu'un des objectifs non avoués, c'est de faire que l'enseignement catholique, beaucoup plus présent en milieu rural qu'en milieu urbain, profite de cette manne de l'éducation prioritaire, comme il a profité de l'obligation scolaire à 3 ans, alors que la quasi-totalité des enfants de 3 ans était déjà scolarisée.
Jean-Yves Rochec, ce professeur en sciences de l'éducation, il répondait à Hakim Kasmi. L'information, véritable révolution diplomatique, a été confirmée par des sources israéliennes. Benjamin Netanyahou était en Arabie Saoudite ce week-end pour rencontrer le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Le premier ministre israélien était accompagné du chef du Mossad, Yossi Cohen. Seulement voilà, le chef de la diplomatie saoudienne a formellement démenti aujourd'hui cette rencontre. Aucune réunion de ce type n'a eu lieu, affirme le prince Faisal Ben Farhan. Aurélien Colli, bonsoir.
Bonsoir.
Correspondant à Beyrouth, Aurélien, le prince héritier Ben Salman a-t-il des raisons de ne pas vouloir officialiser sa rencontre avec Netanyahou ?
Alors la position officielle de l'Arabie Saoudite, elle l'a redonnée ce week-end au G20 de Riyad. C'est officiellement la même depuis l'initiative de paix arabe de 2002. Oui, il y a une normalisation avec Israël, mais pas sans un accord de paix avec les Palestiniens, avec un État pour eux dans les frontières de 67. Pour l'ambitieux prince héritier Mohamed Ben Salman, MBS comme on l'appelle, c'est différent. Au nom de la modernisation et de l'ouverture économique du royaume, au nom surtout d'une ligne dure face à son grand rival iranien, ennemi commun avec Israël, eh bien un rapprochement avec l'État hébreu est plus bénéfique que la défense sans concession de la cause palestinienne. Évidemment, cette position est perçue comme une trahison par une partie du monde arabe. Elle divise même jusque dans la famille royale saoudienne. Alors difficile pour MBS d'assumer cette première visite d'un premier ministre israélien en Arabie saoudite. Et si l'administration Trump rêve de cette normalisation, c'est pour ça que Mike Pompeo était aussi de cette rencontre. Eh bien, inutile pour le prince héritier saoudien d'aller vite. Il peut garder cette carte face à Joe Biden, qui s'annonce plus regardant sur les droits de l'homme et plus ouvert avec l'Iran. Et puis ensuite, sans planter le drapeau israélien à Riyad, sans s'exposer aux critiques, MBS peut aussi continuer à jouer en coulisses les faiseurs de paix entre Israël et les pays arabes, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan ces derniers mois. Oman pourrait être le prochain pays sur la liste et sous pression saoudienne aussi, il y aurait le Koweït, le Pakistan ou la Malaisie.
Aurélien Colli, correspondant à Beyrouth, en direct du Liban, merci. Aux États-Unis, c'est fait, Joe Biden a choisi son secrétaire d'État chargé de diriger la nouvelle diplomatie américaine. Il s'agit d'Anthony Blinken, un choix intéressant pour la France. Anthony Blinken est un parfait francophone et c'est surtout un proche de l'ancien président Barack Obama. Son portrait avec vous, Franck Madvon.
En nommant Anthony Blinken, Joe Biden envoie un message aux alliés traditionnels des États-Unis, à l'Europe notamment. Après les années Trump, nous revenons dans le jeu. Anthony Blinken a 58 ans, il a passé une partie de son enfance à Paris, études brillantes, Harvard, Columbia. Repéré par les démocrates, il écrira les discours de politique étrangère du président Clinton, puis il travaillera pour Joe Biden au Sénat et en tant que conseiller à la sécurité nationale pour le vice-président d'Obama. Voici ce que disait Blinken de Joe Biden, qu'il connaît donc très bien, il y a un an, c'était au micro de Gregory Phillips.
Pour beaucoup d'Américains, ce qu'ils projettent, c'est quelqu'un qui comprend leur vie. Il voit en Biden quelqu'un qui est honnête et même si il y a des choses qu'ils aiment pas, ils pensent qu'il y a une certaine vérité dans le personnage et c'est pas quelque chose de manufacturé, c'est pas quelque chose de politique.
Ancien numéro 2 du département d'État sous Obama, Blinken incarne la politique étrangère du camp démocrate. Un retour aux fondamentaux pour rassurer la France et les Européens. Blinken défend par exemple la solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien. Il le disait en 2018 chez nos confrères de France Inter.
J'y crois toujours. Et j'y crois non seulement pour le peuple palestinien, mais j'y crois aussi pour le peuple israélien. Parce que s'il n'y a pas de solution à deux États, le rêve que nous avons d'un État qui est à la fois juif et démocratique, ce rêve est fini.
Avec Tony Blinken, ce sera la fin du « America first » de Donald Trump. Retour probable des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et dans l'accord sur le nucléaire iranien de 2015.
Franck Mathevon, merci. Au Royaume-Uni, de très nombreuses restrictions sanitaires seront levées le 2 décembre prochain. Le Premier ministre Boris Johnson annonce en ce moment son plan visant à déconfiner le pays. Ce déconfinement sera partiel jusqu'à ce que le dépistage et les vaccins viennent à notre secours, a déclaré Boris Johnson. Johnson devant la Chambre des communes. En France, c'est demain soir à 20h qu'Emmanuel Macron prendra la parole pour annoncer sans doute un allègement du confinement. On termine ce journal avec le temps demain, nuageux à l'ouest et au sud, avec un peu de pluie en soirée. Sur les autres régions, le soleil s'imposera après dissipation des brouillards matinaux. Les températures minimales restent fraîches, des gelées dans l'intérieur des terres, entre 4 et 10 degrés dans les régions littorales. L'après-midi, il fera de 5 à 18 degrés du nord-est à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.